et au verset 4. Deuxième livre de Samuel, le chapitre 4, et le verset 4. Voilà, « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. » Voilà, puis nous allons au chapitre 9, au verset 1er. Il faudrait baisser un petit peu la sono parce que ça résonne là. Merci. Deuxième livre de Samuel, toujours chapitre 9, verset 1er. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba était serviteur de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. On se recueille encore quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que c'est le fondement de notre foi. Et nous voulons te prier pour que ce matin, tu nous viennes en aide par ton esprit. Nous avons besoin de toi pour que, par ton esprit et dans le nom de Jésus, cette parole soit rendue puissante, agissante, opérante dans le cœur de chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, pour qu'ils puissent recevoir ce message comme venant de toi. Et je te prie pour moi aussi, afin que tu me donnes d'apporter ta parole comme il se doit, avec le secours et l'assistance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, fais-nous miséricorde, Seigneur. Éloigne de nous toute pensée négative, toute pensée parasite, qui voudrait nous empêcher de recevoir ce que tu as à nous donner ce matin, aux uns et aux autres. Nous voulons te dire, je veux te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je veux que ta parole fasse du bien à ton peuple et qu'elle me fasse du bien également à moi-même. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin, non pas pour célébrer un office religieux, mais pour adorer, pour glorifier notre Dieu. Merci Seigneur de nous venir en aide, de nous faire grâce, que quelque chose se passe en cette matinée, à la gloire de ton nom, dans le cœur de chacun d'entre nous. Père, nous te le demandons au nom de Jésus, et que toute influence de l'adversaire qui voudrait perturber puisse être éliminée, chassée, vaincue par l'autorité, le pouvoir du nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Méphibosheth. C'est un drôle de nom, ça. Trouvez pas? Hein? Les mamans qui sont enceintes, c'est peut-être un nom auquel vous pourriez penser pour votre futur nouveau-né. Ça serait très, très original, Méphibosheth. Mais Méphibosheth, ça a une signification très précise. Ça signifie celui qui enlève la honte. Celui qui enlève la honte. Alors Méphibosheth, il était mal parti dans la vie. Il avait connu, ce garçon, un double drame. D'abord, il s'était retrouvé orphelin à l'âge de 5 ans, puisque son père, Jonathan, était mort au combat. Et justement, quand la nouvelle de la mort de son père est arrivée, eh bien voilà, il a été victime d'une chute malencontreuse. Et l'Écriture nous dit que le résultat de tout cela, c'était qu'il était perclus des pieds, boiteux des deux pieds. Comme si ça ne suffisait pas, il n'était pas boiteux d'un pied, mais des deux, une double infirmité. Il y a des gens comme ça dans la vie, ils collectionnent les déboires. Hein? C'était son cas. Il y avait eu d'abord un traumatisme affectif, le décès de son père, et c'est certainement dommageable et quelque chose de douloureux pour un enfant de devoir grandir sans l'image du père, en étant privé de la présence du père. Traumatisme affectif. Et puis traumatisme physique, dans le sens, oui, qu'il était atteint de ce double handicap du fait des conséquences de cette chute malencontreuse que nous venons de signaler. Et puis, il résultait de cela un autre traumatisme encore, voyez, un traumatisme moral. Regardez comment Méphibosheth parle de lui-même. Lorsque le roi David le convoque, lorsque le roi David le fait venir dans son palais pour lui faire du bien, nous allons nous y attarder un petit peu, il exprime de sa propre personne une opinion terrible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu regardes un chien mort comme moi? Voilà l'opinion que Méphibosheth porte sur lui-même, le regard qu'il porte sur sa propre vie. Il faut savoir que nous sommes au sein du peuple d'Israël, et qu'un chien, pour un juif, c'est un animal impur, c'est un animal indigne du moindre intérêt. Et c'est là le nom, le qualificatif, le terme que Méphibosheth applique à sa propre personne, un chien mort. On peut en conclure certainement que Méphibosheth se méprisait, il s'estimait indigne du moindre intérêt. Il s'auto-dénigre, il se sent incapable, incompétent, inutile, il se déprécie, il se déconsidère, il a honte de lui-même. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont une piètre opinion de leur propre personne. Peut-être même y en a-t-il dans ce lieu ce matin, pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons, on peut essayer de passer en revue quelques-unes des raisons qui font que dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, il peut y avoir cet état d'esprit négatif. Certains ont connu le deuil, la mort d'un être cher. D'autres ont connu un échec sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Il y a eu séparation, il y a eu divorce. Celui ou celle que vous aimiez et qui prétendait vous aimer, un jour vous a trahi, vous a trompé, et s'en est allé vivre une autre aventure ailleurs. Il y a même des gens, et parfois on connaît ça, parmi des chrétiens qui ont été abusés dans leur intimité alors qu'ils étaient enfants, alors qu'ils étaient adolescents, ou ils ont été maltraités de la part de leurs proches. Il y a des gens qui ont connu un échec professionnel, un échec dans le domaine des études. Voilà, ils rêvaient d'une carrière formidable et puis le rêve s'est évanoui et c'est devenu un véritable cauchemar. Il y a aussi ceux qui sont atteints d'une maladie chronique, d'un handicap, visible ou pas. Alors, je ne sais pas, pour Méphibosheth, peut-être, ça n'est pas écrit, mais on peut essayer d'imaginer. Peut-être avait-on essayé de lui appliquer quelques traitements pour réduire la fracture et pour faire en sorte que l'handicap soit solutionné. Mais apparemment, eh bien, les traitements médicaux avaient lamentablement échoué. C'est vrai que depuis, aujourd'hui, la médecine, Dieu merci, a fait de grands progrès, mais malgré tout, nous savons qu'elle ne résout pas tous les problèmes et qu'il y a encore des gens malades et malades qui le restent. Alors peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a des gens qui, même parmi les chrétiens, entretiennent des sentiments comparables à ceux de Méphibosheth et qui portent sur leur propre vie un regard particulièrement négatif. Vous vous sentez indigne. Il y a même une forme de mépris de vous-même, un auto-dénigrement. Vous avez peut-être même honte de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Il y a de la frustration, peut-être sans vous l'avouer même. Y a-t-il de l'amertume et de la révolte envers Dieu? En disant, mais pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Pourquoi, eh bien, le sort s'est-il ainsi acharné sur ma personne? Pourquoi est-ce que je collectionne les démoires, et pourquoi est-ce que je n'en sors pas? La chance de Méphibosheth, c'est que David se soit intéressé à lui. Et il est dit que David l'a fait rechercher pour lui faire du bien et pour user à son égard de la bonté de Dieu. Vous savez que Dieu est bon? Est-ce que vous êtes persuadé que Dieu est bon? Hein? Il y a des gens qui ont une triste opinion de Dieu, hein? Un Dieu dur, un Dieu méchant. Je me souviens de cette chrétienne que nous avions en Avignon lorsque nous servions le Seigneur dans cette ville. Elle nous racontait que durant son enfance, chaque fois qu'il lui arrivait un petit malheur ou un grand malheur, sa mère lui disait c'est le bon Dieu qui t'a puni. Tu es tombé, tu t'es écorché les genoux, eh bien c'est le bon Dieu qui t'a puni. Alors elle a grandi, vous voyez, avec l'image dans sa tête, dans son cœur, d'un Dieu qui nous poursuivait en ayant en quelque sorte une trique à la main et qui nous appliquait force coup, et que chaque fois que, eh bien, un problème surgissait, c'était la faute à Dieu. Et il y a des gens qui pensent comme cela. Il y a même des chrétiens nés de nouveau, convertis, qui ne sont pas totalement débarrassés de cet état d'esprit et qui ont une fausse idée, une fausse image de qui est Dieu. Mes amis, ce matin, je veux vous dire, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en dépit même de ce qui peut-être vous arrive et en dépit de ce qui provoque vos interrogations. La chance de Méphibosheth, nous l'avons dit, c'est que David se soit intéressé à lui. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon même pour ceux qui peinent, qui souffrent, qui ont échoué, qui sont marqués par la vie, qui ont vécu toutes sortes de traumatismes. Regardez dans les évangiles. Cet intérêt que le Seigneur Jésus porte à tous ceux qui sont dans la détresse. Souvent, cette expression revient à propos du Seigneur. L'avez-vous noté? Il fut ému de compassion. Ému de compassion pour le lépreux que personne n'osait toucher. Mais lui, l'Écriture nous dit qu'il a étendu la main et il a osé faire ce que personne n'osait faire. Il l'a touché et il l'a guéri. Ému de compassion pour la veuve de Naïm qui portait en terre son fils unique. Ému de compassion pour la foule dont il dira qu'elle était languissante, abattue comme des brebis sans berger. Et parce qu'il est plein de bonté, il veut encore faire du bien ce matin. Amen. Voilà, soyez persuadés que Dieu vous réserve de bonnes surprises. Alléluia. Tout n'est pas fini. Et même si, eh bien, le malheur a frappé votre porte, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, gloire à Dieu. Il a la réponse, il a la solution. Alors on pourrait dire, oui, mais Mephibosheth avait David. David, c'était le roi. David a pu venir en aide à ce garçon, le secourir, lui tendre la main, lui accorder une autre chance. Nous n'avons plus de David. Nous avons mieux que David. David est mort depuis bien longtemps, mais nous avons celui que la Bible appelle le fils de David. C'est-à-dire le Seigneur Jésus en personne. Et si David est mort, je veux vous dire, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous avons célébré il y a quelques semaines la Pâque. Et la Pâque, c'est la fête de la résurrection. La fête de la résurrection. Voyez, tout ne se ressemble pas. Il y a des gens qui disent, bon, vous savez, toutes les fois sont comparables. Après tout, il y a un seul Dieu. Voilà, et que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien ou que vous soyez autre chose, ça n'a pas d'importance s'il y a un seul Dieu. L'Écriture dit, oui, certes, il y a un seul Dieu, mais elle ajoute, la Bible, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même en rançon pour tous. La différence est là, c'est que Jésus est vivant. Nous avons affaire à un sauveur vivant, non pas un prophète du passé dont les eaux desséchées sont enfermées au fond d'un mausolée, mais nous avons affaire au Fils de Dieu qui est vivant et qui peut agir encore aujourd'hui, que son nom soit béni. Et par lui, par Jésus donc, la bonté de Dieu nous parvient. Au moment où David s'est intéressé, s'est inquiété du sort de Mephibosheth, l'Écriture nous dit qu'il était à Lodebar. Alors, je ne sais pas si vous savez où c'est Lodebar, mais c'était une localité à l'est du Jourdain, c'est-à-dire très, très loin de Jérusalem, qui était la capitale, là où demeurait le roi David. Ainsi, vous voyez, Mephibosheth était en quelque sorte exilé, comment dire ça, au milieu de nulle part, dans un coin perdu. J'allais dire dans un bled paumé, vous voyez, dans un endroit vraiment sinistre. Ça, c'est la condition de l'être humain. Nous sommes, du fait de notre péché, exilés, séparés de Dieu, privés de sa présence. Nous connaissons ce verset qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut traduire aussi ce passage en disant « privés de la glorieuse présence de Dieu ». Pourtant, Mephibosheth n'était pas n'importe qui. Il était de sang royal. C'était un prince. Mais un prince qui avait perdu son héritage. Et ça aussi, c'est la condition de l'être humain. La conséquence du péché, nous avons perdu notre héritage. Quel est notre héritage? Quand Dieu a créé l'être humain, pourquoi l'a-t-il créé? Il l'a créé pour la vie et pour l'immortalité. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans la désobéissance, lorsqu'ils ont transgressé la loi divine et derrière eux, eh bien, tous les êtres humains ont fait la même chose, alors le salaire du péché, c'est devenu la mort. Et l'être humain qui était destiné à la vie a connu ce sort tragique, la mort. Lorsqu'on est confronté à la mort, on sent qu'il y a là comme une espèce d'anomalie. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais lorsqu'on est devant la mort, lorsque l'on est devant un cadavre, surtout si c'est quelqu'un que l'on a connu personnellement, eh bien il y a une espèce de révolte. Et on se dit à l'intérieur de soi, ça ne devrait pas être ainsi. Et c'est vrai, ça ne devrait pas être ainsi, mais ça, c'est le péché qu'il a produit dans la condition de l'être humain. Revenons à Mephibosheth. Il était petit-fils de Saül. Et la parole de Dieu nous apprend que Saül était un ennemi, mais alors acharné de David. Saül voulait le mettre à mort et pendant bien longtemps, il l'a poursuivi de sa haine viscérale. Généralement, à cette époque, eh bien, on exterminait la famille de ses ennemis. Comme ça, il n'y avait plus de problème, vous voyez. Et David était en position d'autorité Et il aurait tout à fait pu user de son autorité pour éliminer cet pauvre Mephibosheth en disant, eh bien, il n'y aura pas de concurrence, on sera débarrassé de lui définitivement. Vous savez, David l'a cherché non pour se venger, mais l'Écriture nous dit pour lui faire du bien. La Bible nous dit que nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées, nos mauvaises œuvres. Mais à cause de l'œuvre de Jésus, eh bien, nous avons été rachetés, sauvés de nos péchés. Et la condamnation qui nous menaçait, le jugement dont nous étions passibles, nous en avons été délivrés, nous y avons été soustraits par le sacrifice de Christ. Alors, le texte est précis. Pourquoi David a-t-il décidé de faire du bien à Mephibosheth plutôt que de l'éliminer ou de l'ignorer, de le laisser dans sa misère? David dira « à cause de Jonathan ». Et ceux qui connaissent la Bible savent qu'il y avait une amitié profonde entre David et Jonathan, lequel Jonathan était le père de Mephibosheth. Ces deux-là, David et Jonathan, s'étaient liés l'un à l'autre par serment. Ils avaient fait une alliance. Et David a voulu être par-delà même la mort de son ami, fidèle à cet engagement, fidèle à ce serment, fidèle à cette promesse. Il a voulu tenir sa promesse. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Et parce qu'il est fidèle, il tient toujours ses promesses. Vous savez, la Bible n'est pas un vieux grimoire destiné à s'empoussiérer sur un rangement de bibliothèque. L'Écriture dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Si vous voulez réussir dans la vie, et qui ne veut pas réussir dans la vie? Si vous voulez réussir votre existence, il vous faut bâtir votre vie sur les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Et si vous faites cela, je ne vous garantis pas que vous serez épargné par les problèmes, par les difficultés, mais au bout du compte, vous vous apercevrez que, eh bien, malgré tout, la bénédiction de Dieu, l'approbation de Dieu a reposé sur vous et que sa grâce a été là en toutes circonstances. Alors, comment la promesse a été tenue? Eh bien, d'abord, nous l'avons dit, Mephibosheth a été épargné et non pas condamné. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. L'Écriture nous dit dans l'Épître aux Romains qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a retrouvé son héritage qu'il avait perdu. David lui a rendu toutes les terres de son grand-père Saül. Et nous aussi, chrétiens, nous avons un héritage. Vous savez ça? Quel est notre héritage? L'Épître de Pierre nous dit que c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Alléluia. Lui qui pendant longtemps fut, je parle de Mephibosheth, exilé loin de Jérusalem, y habitait désormais en compagnie du roi, à proximité du roi. Et c'est notre condition à nous chrétiens. Un texte de l'Épître aux Éphésiens nous dit que nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Qu'est-ce que c'est que l'authentique vie chrétienne? C'est bien plus que participer à quelques cérémonies religieuses. Être un vrai chrétien, c'est vivre en communion avec Dieu. Amen. C'est vivre en relation avec Dieu. C'est goûter à une espèce d'intimité entre le Créateur qu'il est, la créature que je suis. Et ça, c'est délicieux, mes amis, de savoir que Dieu est présent. Non pas seulement à côté de nous, pas seulement présent le dimanche matin lorsque je participe à un culte comme aujourd'hui, mais il est présent dans ma vie, il est présent dans mon cœur, il est présent dans toutes les circonstances parce qu'il m'a rapproché de lui. Et puis, Mephibosheth a encore été en quelque sorte adopté par David. J'aime ce verset qui dit que Mephibosheth mangeait tous les jours à la table du roi comme l'un des fils du roi. Comme l'un des fils du roi. Eh bien, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous adopte. Alléluia. Il nous adopte. L'Épître aux Romains nous dit que nous sommes enfants de Dieu et que de ce fait, nous pouvons l'appeler réellement notre Père. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas seulement ses créatures, mais ses enfants. Vous connaissez cette fameuse prière, le Notre Père qui est aux cieux, etc. Vous savez, il y a des tas de gens qui l'ont prononcé, cette prière, alors qu'ils n'ont jamais été des enfants de Dieu. Non. Nous sommes tous croyants et incroyants, des créatures de Dieu, ok, ça c'est clair. Mais pour être des enfants de Dieu, pour qu'il y ait cette adoption qui s'opère à notre égard, pour que Dieu devienne notre Père, il faut que quelque chose se passe. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, nous dit « À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si vous voulez que Dieu devienne effectivement votre Père, il faut que vous acceptiez Jésus comme votre Sauveur. Et puisqu'il y a des gars, des filles qui sont fils et filles de chrétiens, les enfants, écoutez ça, je voudrais vous dire, mes amis, mes jeunes amis, que Dieu n'est pas un grand-père. Il n'est qu'un père. Il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce n'est pas parce que papa et maman sont, eux, enfants de Dieu, que je le suis, moi, automatiquement. Il faut qu'il y ait, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, une démarche personnelle. Ce matin, si vous voulez que Dieu devienne votre Père, avec tout ce que cela implique, eh bien, il faut que vous acceptiez Jésus comme votre Sauveur. Il faut que vous vous reconnaissiez pécheur devant lui. Il faut que vous lui demandiez pardon de vos péchés. Il faut que vous acceptiez de croire que pour vos péchés sur la croix, Jésus a dû mourir. Il faut que vous lui disiez, Seigneur, maintenant je te donne ma vie et avec le secours de ta grâce, je veux vivre en accord avec tes enseignements, avec tes écritures, avec la parole de Dieu. Remarquez comment le récit s'achève. C'est à ça que je veux en venir. Verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il est écrit, il était boiteux des deux pieds. Moi, j'aurais aimé que ça se termine en disant, et Mephibosheth a été guéri de son infirmité. Ça aurait été bien, non, comme conclusion. Trouvez pas? Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Mephibosheth était boiteux des deux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mephibosheth n'a pas été guéri. Son handicap, physique en tout cas, était toujours là. Alors on pourrait dire, mais où est donc la différence? Où est donc la différence? Ce garçon, finalement, sa vie a été encore dans le futur ce qu'elle avait été dans le passé, non? Parce que par la bonté que David s'est appliqué à lui manifester, il lui a rendu sa dignité de prince, et Mephibosheth a pu dépasser ainsi son handicap. Nous croyons à la guérison divine. Amen. Nous croyons et nous continuons à prêcher que par la foi dans les promesses divines qui s'accomplissent en Jésus-Christ, on peut être guéri. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il s'est chargé de nos douleurs, il a pris nos infirmités. C'est écrit. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mal. Aux malades et les malades seront guéris. La prière de la foi relèvera le malade. Gloire à Dieu. Et nous avons été, vous, moi, témoins, peut-être pour certains bénéficiaires d'authentiques guérisons d'origine divine. Nous avons parfois été témoins de vrais miracles. Gloire à Dieu. Cependant, ayons l'honnêteté de reconnaître que tout le monde n'est pas guéri. C'est vrai ou pas? Et c'est vrai aujourd'hui, et ça l'était hier, mes amis. Parce que l'Écriture parle, par exemple, du prophète Élisée. Et il est dit qu'Élisée, qui était un homme de Dieu remarquable, il était atteint de la maladie dont il mourut. Il n'a pas été guéri, celui-là. L'apôtre Paul parle de l'un de ses collaborateurs, Trophime. Et il dit, j'ai laissé Trophime malade, ennuyé dans son parcours missionnaire. Voilà. Il a fallu que, eh bien, Trophime soit exempté de service pour raison de santé. Et il écrira encore un autre de ses collaborateurs, l'apôtre Paul, à Timothée, en faisant référence à ses indispositions et ses problèmes d'estomac. C'est écrit, ça aussi. Quant à Paul lui-même, parlera de cette écharde dans la chair. Alors, on se perd en conjoncture. Qu'est-ce que c'est que cette écharde dans la chair? Mais on peut penser que, vraisemblablement, c'était une infirmité, tout au moins un problème de santé physique, dont il n'était pas guéri. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir à cela. Vous qui souffrez d'un mal qui persiste, d'un handicap chronique, parce qu'il y en a, un handicap, un mal qui persiste malgré toutes vos prières. Vous qui avez connu peut-être divers traumatismes dans le domaine moral, affectif, émotionnel, familial, ce matin, laissez-vous atteindre par la bonté de Dieu. Pour ne pas ajouter à vos problèmes des sentiments négatifs et destructeurs. Ne vous considérez pas comme indigne. Ne vous dénigrez pas vous-même. Ne manifestez pas de mépris quant à votre propre personne. N'entretenez pas de complexe d'infériorité. N'ayez pas honte de vous, de ce que vous êtes. Et n'entretenez pas de culpabilité. Parce que vous savez, le diable, il sait mettre la pression. Hein, pour suggérer que finalement, s'il y a un problème, c'est que sûrement nous y sommes pour quelque chose. Et parfois, c'est le cas. Parfois, nous avons à nous en prendre à nous-mêmes. Mais c'est loin d'être toujours le cas. La maladie n'est pas une preuve systématique de péché. Elle n'est même pas une preuve systématique d'un manque de foi. Portez sur votre vie le regard que Dieu y porte. Alléluia. Nous l'avons dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vos péchés sont pardonnés. Vous avez en partage un héritage céleste qui vous est réservé d'un. Vous êtes enfant de Dieu, objet de son amour. Il vous a ennobli. L'Écriture dit qu'il a fait de nous une nation de rois. Vous vivez journellement dans sa présence. Le Saint-Esprit habite en vous et un jour vous entrerez dans la nouvelle Jérusalem. Surtout ne pensez pas, vous qui souffrez, vous qui vivez un problème qui n'est toujours pas résolu, surtout ne pensez pas que vous êtes inutile dans l'Église. Je ne sers à rien. Avec le problème qui est le mien, je ne peux rien faire de bon. Je ne peux pas être utile à la cause de Christ. Ou pire, ne pensez pas que vous êtes une charge insupportable pour l'Église. Non ! Vous y avez votre place. Vous y avez votre place. Ne pensez pas non plus que vous êtes, comme on dit dans notre jargon évangélique, un mauvais témoignage du fait que vos problèmes ne sont pas encore résolus. C'est tout le contraire. Votre fidélité envers le Seigneur dans l'épreuve, malgré l'épreuve qui se prolonge, est un témoignage puissant, est une source d'encouragement, un modèle, un exemple qui édifie les autres. Alléluia. Nous avons à Rumilly une sœur que certains connaissent, par pudeur, par décence, par respect de son intimité, je ne citerai pas son nom, qui est atteinte d'une hémiplégie. Depuis des années, cette sœur, elle ne peut plus venir à l'église. Elle est clouée sur son fauteuil roulant. Elle est dépendante des assistantes de vie, infirmières, etc., etc. Mais mes amis, quand on va la voir, elle est toujours rayonnante. Elle est toujours rayonnante. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre de son problème de santé. Elle reflète la joie du salut. Et ça, c'est un témoignage. Et ça, c'est un témoignage. On ne peut pas dire, cette sœur, elle n'a pas sa place dans l'Église. Elle est inutile, elle ne sert à rien, elle est une charge. Non, elle est un témoignage à la gloire de Dieu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire, voyez. Il faut même apprendre. Il faut même apprendre. Et j'en conviens, c'est une rude leçon. Il faut même apprendre à faire de notre faiblesse une force. C'est ce que faisait l'apôtre Paul, dites. Dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, il dit quelque chose d'important à ce sujet, n'est-ce pas? Il parle de ses faiblesses, oh, non pas de ses péchés, non, il n'est pas question de cela. Mais il dit ceci, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, donc, à cause de l'excellence de ces révélations que j'ai reçues, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et sa prière n'a pas été exaucée. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez, cet homme dans la vie, à divers égards, était marqué par la faiblesse. Eh bien, l'âme servit le Seigneur avec une puissance remarquable. C'est ce qu'il veut faire pour plusieurs ce matin. Il veut glorifier son nom au travers de votre faiblesse. Je me plais dans les faiblesses, car quand je suis faible, dit Paul, c'est alors que je suis fort. Voyez, pour mes Méphibosheth, les séquelles, les cicatrices de cette chute qu'il avait connue étaient toujours là. Mais du fait de la bonté de David, qui était le reflet de la bonté de Dieu, sa vie intérieure, on peut le dire comme ça, n'était pas boiteuse. Sa vie spirituelle et morale ne souffrait d'aucun handicap. Il avait connu, sinon une guérison physique, du moins une guérison intérieure dans son âme. Et ce matin, c'est aussi ce qu'il veut faire pour plusieurs. Sans exclure toutefois la guérison physique, il veut opérer dans la vie de plusieurs d'entre nous une guérison intérieure. Une guérison intérieure qui consistera à pouvoir être débarrassé de ces sentiments négatifs, destructeurs, d'auto-dénigrement que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre propre personne. Comment parvenir à saisir cette guérison intérieure? Eh bien, il vous faut une fraîche révélation de l'amour de Dieu, avec les conséquences qui en découlent. Lorsqu'on est entouré, lorsqu'on est envahi par l'amour de Dieu, quelles que soient par ailleurs les circonstances extérieures, et ça peut concerner aussi notre santé physique, eh bien, on est bien, on le chante, dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu. Vous savez, il faut penser à cela, c'est qu'un jour, toute douleur, tout handicap, toute souffrance cesseront. On n'est pas encore dans le ciel, vous savez. Parfois, on voudrait que ce soit le ciel sur la terre, mais ça n'est pas le cas. Parfois même, certains slogans, certaines affirmations voudraient nous faire croire qu'un chrétien digne de ce nom vit pratiquement dans un autre monde, dans un autre univers. C'est pas vrai, mes amis, on a les pieds sur terre. On a les pieds sur terre. Et on vit ce que le genre humain vit. On connaît la douleur, on connaît l'échec, on connaît la souffrance, on connaîtra même un jour la mort, si le Seigneur tarde. Où est la différence? La différence, c'est que nous savons que tout ne s'arrêtera pas au fond du tombeau. Pour terminer, je voudrais lire avec vous un dernier texte qui se trouve dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 4. Et au verset 16, voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire notre corps, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Qu'est-ce que c'est les arts? Les arts, c'est un acompte, c'est un avant-goût. Dieu nous a donné les arts de l'esprit, c'est-à-dire une petite portion, un avant-goût, un acompte de notre héritage céleste. Mais un jour, là-haut, nous en recevrons la totalité de l'héritage. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te louer.